おかしい、おかしい。おかしい。
J'ai le bras congolais avec le cœur de la présentation.
Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous du chaque soir, Dialogue en Congolais, dans laquelle émission nous traitons de l'actualité politique en RDC, situation sécuritaire à l'est du pays. Le Premier ministre adopte une veto ce mardi à Goma, en Nord Kivu. Que peut-on attendre de cette tournée du Premier ministre dans les deux Kivu et dans la province orientale? Et quelles sont les causes profondes de la crise à l'est et quelles solutions pour une paix durable dans cette partie du pays? C'est le thème que nous abordons ce soir. En effet, le nouveau Premier ministre est arrivé cet après-midi à Goma, première étape d'une visite de travail qui le conduira aussi au sud Kivu et dans la province orientale. Objectif, tâter du doigt la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays, accompagné d'une délégation ministérielle, il s'est déjà entretenu avec Alain Leroy, sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Trois invités sont là pour en parler. François Grignon, directeur du programme Afrique de l'ONG de prévention et résolution de conflits, International Crisis Group, ICG, Karina Serpakian, chargée du programme RDC à l'ONG Global Witness, une organisation non gouvernementale britannique, et Labana Lassai, professeur de relations internationales à l'Université de Kinshasa, qui intervient dans cette émission comme analyste politique.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Premier ministre Adolphe Mouzito effectue depuis cet après-midi à Goma en Nord Kivu une visite de travail. Cette visite intervient dans un contexte de guerre. Pour en savoir plus, notre confrère Pierrot Elameji a joint depuis Goma notre correspondance sur place. José Deschartes-Venga, je vous prie d'abord de les suivre avant de poursuivre cette émission.
José Deschartes-Venga, dans quel contexte s'effectue la visite du Premier ministre Adolphe Mouzito dans la province du Nord Kivu?
Pierrot, il faut dire que le Premier ministre Adolphe Mouzito est arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu aujourd'hui, après toutes les agitations que cette ville a produit la semaine dernière, donc presque toute une semaine d'agitation, agitation caractérisée notamment par des affrontements sur l'axe Goma-Rutshuru, notamment à Kinshasa, entre le CNDP et les FRDC. Et donc, c'est sur fond de toutes ces agitations que la province du Nord Kivu et la ville de Goma ont connu la semaine dernière, que le Premier ministre Adolphe Mouzito est arrivé aujourd'hui à Goma. Donc, voilà à peu près le tableau dans lequel vient s'insérer le Premier ministre Adolphe Mouzito et toute la suite du gouvernement qui l'accompagne.
José Deschartes-Menga, qu'attend la population du Nord Kivu dès cette première visite du Premier ministre Adolphe Mouzito et quelle a été l'attitude de la population face à cette visite?
Oui, il faut d'abord dire que l'atmosphère était presque maussade quelques une ou deux heures avant l'arrivée du Premier ministre Adolphe Mouzito, parce qu'il était attendu à 13h, et à 13h, l'aéroport de Goma était toujours vide. Donc, le même décor traditionnel qui accompagne l'arrivée des autres autorités politiques congolaises n'y était pas, donc il n'y avait pas de dispositifs particuliers. Il a fallu attendre quelques 60 minutes après pour que quelques partisans de partis politiques pro-AMP arrivent à l'aéroport de Goma, et il y a eu quelques officiels aussi, vraiment pas un grand monde, une grande foule. Il y a eu même quelques calicots qui appelaient à la cessation des hostilités et qui demandaient au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour rétablir la paix au Nord Kivu. Quelques personnes que nous avons rencontrées à l'aéroport et d'autres que nous venons de rencontrer ici au gouvernorat du Nord Kivu, où le Premier ministre a des entretiens avec différents groupes. Donc quelques étudiants que nous avons rencontrés, des représentants qui viennent du territoire des Massissi aussi que nous avons rencontrés. En tout cas, beaucoup de gens, la majorité insiste sur la cessation des hostilités. Et laquelle cessation des hostilités doit se faire, pour la plupart des gens, par la voie du dialogue. Ils veulent que le gouvernement puisse négocier, que le gouvernement puisse prendre toutes ses responsabilités afin de ramener la paix dans la province du Nord Kivu, Pierrot.
José Deschartes-Menga, je vous remercie.
Merci, Pierrot.
Je rappelle que nous avons en ligne tous nos invités au téléphone. François Grignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du programme Afrique de l'ONG de prévention et résolution de conflits, International Crisis Group, ICG. Je vous pose la première question. Est-ce que d'après vous, la visite à Goma du Premier ministre, trois jours après l'investiture de son gouvernement, prouve que ce gouvernement a finalement décidé de prendre à cœur la résolution de la crise à l'est du pays?
Écoutez, c'est une très bonne chose. Je pense que la visite du Premier ministre à Goma montre une volonté d'assumer, pour le gouvernement, d'assumer ses responsabilités, de traiter le dossier en urgence et avec vigueur et détermination. Je dirais que ce premier pas est une très bonne chose pour le traitement politique le plus rapide possible de ce dossier et, si possible, l'arrêt des hostilités.
Voilà, merci. Nous avons également dans cette émission Labana Lassaï. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Kinshasa. Vous intervenez dans cette émission comme analyste politique. Nous venons de suivre le reportage de notre correspondant sur place, José Deschartes Menga. Il faut dire que l'accueil du Premier ministre n'a pas été un accueil de bons jours. Hein. Nous connaissons le contexte dans lequel il a été désigné. Tout juste après cette désignation, certains députés nationaux de l'Est du pays était très réservé hein, quant à sa capacité à résoudre le problème de l'Est. Cette réticence s'est vérifiée par cet accueil.
Non, nous devons prendre cette arrivée du Premier ministre au Nord Kivu comme étant un premier pas en accomplissement des missions que le président de la République lui a confiées. Je pense que, au moment actuel, nous ne pouvons pas chercher à diviser ou quoi. Nous devons mettre tous nos efforts pour permettre à ce gouvernement qui fait un signal fort dans le sens de la résolution de ce conflit. Je crois que c'est une bonne chose de cette visite du Premier ministre au Nord Kivu pour aider la situation et examiner l'état des lieux et proposer des solutions qu'il faut à cette crise qui nous mine il y a beaucoup d'années comme ça. Je crois que c'est une bonne chose. Il va entrer dans la réalité de ce qui se passe au Nord Kivu et je crois qu'il pourra faire des propositions concrètes sans de l'action de son gouvernement.
Je reviens à vous, François Grignon. Goma est actuellement une zone opérationnelle. La dimension de la crise du Nord Kivu justifie-t-elle un tel risque pris par le Premier ministre pour se rendre dans une zone de guerre?
Ben écoutez, je pense que c'est une démarche importante à la mesure de la souffrance des populations. Pendant trop longtemps, les institutions nationales ont quand même, ignoré la souffrance des populations du Nord Kivu. Des campagnes militaires ont été menées avec des résultats catastrophiques pour ces populations civiles. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui semble vouloir se mettre à l'écoute des populations, qui veut vouloir illustrer, sa préoccupation vis-à-vis de la véritable crise humanitaire absolument catastrophique qui se passe en son au Nord Kivu. Donc on ne peut que s'en satisfaire. Bien sûr, c'est prendre des risques, mais on n'obtiendra pas de résultats concrets et de solutions à cette crise si on ne prend pas de risques et si on adopte une démarche fondée sur des assurances permanentes. Il faut absolument avoir une démarche constructive pour politique pour résoudre cette crise. Et si la prise de risque du Premier ministre finit par payer, je crois que toutes les populations du Nord Kivu et le pays tout entier lui en seront reconnaissants.
François Grignon, vous êtes directeur du programme Afrique de l'ONG de prévention et de résolution de conflits International Crisis Group, ICG en sigle. Vous connaissez la classe politique congolaise. Quelle chance finalement vous accordez à ce gouvernement quant à la résolution de ce problème complexe que la situation de crise non seulement au Nord Kivu, au Sud Kivu, mais aussi dans la province orientale, pourquoi pas?
Je crois qu'il faut d'abord poser les termes du problème. Qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir? Quel est le résultat que l'on essaye d'obtenir? Et la réponse est claire. Le résultat, c'est le désarmement et la démobilisation de tous les groupes armés. Les groupes armés nationaux, le Rwanda et ses insurgés, les autres groupes armés Maïmaï et autres milices, et aussi des groupes de désarmement définitif des groupes armés étrangers. Donc ça, c'est le résultat nécessaire pour la restauration de l'autorité de l'État civil, pour la démilitarisation aussi de l'économie du Nord Kivu. Il ne faut pas oublier que c'est le, je dirais, cette militarisation de l'économie qui alimente le conflit en grande partie. Et pour obtenir ce résultat, il va falloir mener un processus politique. Il va falloir, je dirais, avoir des discussions, notamment avec le CNDP, mais sans se tromper d'objectif. Il n'y a pas d'autres négociations à mener avec Laurent Nkunda que les conditions de son désarmement, le rythme, l'organisation. Mais le Congo a aujourd'hui des institutions élues, légitimes, une nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum, et il n'y a rien d'autre à négocier que le processus précis du désarmement qui doit se dérouler de sorte à être convaincant, de sorte à être crédible, et pas dans les mêmes conditions que se sont passés le mixage ou que se sont passées les, je dirais, les différentes tentatives en 2006 et 2007.
Voilà.
Pardon, 2007 et 2008, où on a tenté simultanément, on a voulu faire croire qu'on menait des négociations, mais en fait on préparait des campagnes militaires.
Merci.
Qui sont vouées, in fine, à l'échec.
Merci.
Donc c'est là-dessus, je pense, que ce sont les dossiers sur lesquels il faut s'atteler. Et bien sûr, le gouvernement ne pourra pas traiter de ce problème seul. Il aura besoin de l'appui de la communauté internationale. Et pas simplement de la MONUC.
Voilà.
Je dirais l'appui des membres du Conseil de sécurité dans leur ensemble. Il y a une responsabilité collective, internationale et régionale vis-à-vis de cette crise.
Merci. On
va prendre pression. Doit être menée à la fois sur les acteurs du conflit au niveau national, mais aussi régional, sur le Rwanda notamment. Et ça, la MONUC ne peut pas le faire. Ce sont les membres du Conseil de sécurité qui doivent venir en soutien à ce processus de paix et de résolution du conflit.
Voilà, donc je rappelle que à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours d'émission, que nous parlons ce soir de la situation sécuritaire à l'est du pays, le Premier ministre Adolphe Muzito est déjà ce mardi à Goma en Nord Kivu. Que peut-on attendre de cette tournée du Premier ministre dans les deux Kivu et dans la province orientale? La réalisation me signale que Karina Terfakian est déjà au bout de fil. Vous êtes avec nous, Karina?
Oui, bonsoir. Il y a eu un problème de communication, mais je suis bien avec vous.
Et merci beaucoup. Vous êtes chargé du programme RDC à l'ONG Global Witness, une organisation non gouvernementale britannique. Puisque François Grignon vient de parler de la militarisation de l'économie, je pense que c'est ce que vous avez dénoncé également dans l'un de vos derniers communiqués. Et qu'est-ce que représente pour vous la visite du Premier ministre dans une zone opérationnelle comme Goma? C'est aussi pour mettre fin à la militarisation de l'économie du Nord Kivu?
Bon, il faut l'espérer. Je pense que la visite en soi a peut-être d'abord une valeur symbolique, mais il faut bien sûr aller au-delà de ces symboles. Je pense que cette militarisation de l'économie, et en particulier du secteur minier au Sud-Kivu et au Nord Kivu, ça reste l'un des facteurs vraiment les plus importants dans ce conflit. Nous avons vu même depuis le début de la guerre, bien sûr ce n'est pas un nouveau phénomène, mais nous avons vu comment en fait tous les principaux groupes armés ainsi que l'armée nationale congolaise se sont battus pour le contrôle des mines et continuent d'ailleurs de piller ces ressources naturelles, de creuser même directement parfois et de s'impliquer directement dans le commerce illicite des minerais. Et c'est d'ailleurs en grande partie grâce à cela que certains groupes armés ont réussi à survivre. Et d'ailleurs, certains sont vraiment maintenant assez bien implantés avec des bases économiques solides. Donc, il est vraiment essentiel que surtout au niveau international, qu'on s'attelle à ce problème et qu'on commence à parler de manière franche et explicite des agendas économiques des différents acteurs. C'est un sujet pour certains peut-être un peu tabou, mais à notre avis c'est essentiel de l'aborder de façon urgente et explicite si on veut vraiment trouver des solutions à long terme.
Merci beaucoup Karina. Je reviens à vous, professeur Labana Lassaye. Vous êtes professeur de relations internationales, mais vous intervenez dans cette émission comme analyste économique. On se rend compte en suivant François Grignon et Karina Terfakian que l'économie de guerre est très très bien implanté à l'est du pays. Face à tout ce contexte, quelle chance accordez-vous au gouvernement Mouzito pour résoudre cette question, cette crise à l'est du pays, au nord qui vous précisément?
Je crois que le gouvernement Mouzito, le Premier ministre, doit d'abord chercher à avoir la cohésion au niveau interne, au niveau de la nation. Deuxièmement, j'ai entendu l'autre qui est au bout du fil qui parlait des négociations, des processus. Dans notre pays ici, on a fait beaucoup de négociations et on n'est pas arrivé à un résultat concret. Je pense, dans le cas de cette crise du pays, plus précisément à Goma, je crois que le plus important est que les belligérants, c'est-à-dire le CNPD d'un Kondabatoire et le gouvernement, qu'on rentre dans le processus qui a été établi pour trouver des gens. Moi, je ne vois pas pourquoi aller dans une autre négociation en Kenya 2 pour résoudre ces problèmes. Je ne pense pas qu'on peut trouver une solution à cela. La solution doit devenir d'abord chez les Congolais eux-mêmes. Dans le cas du processus qui a été établi,
professeur,
si à ce niveau-là,
professeur,
on ne trouve pas la solution, oui.
Vous nous introduisez déjà dans la deuxième partie de cette émission.
Non, je voulais tout simplement dire ceci, que la communauté internationale, cette communauté internationale a beaucoup d'intérêt dans notre pays. Les négociations qu'on peut envisager, mais il faut tenir compte des intérêts de ceux qui sont impliqués dans ces conflits. Vous savez très bien que la guerre dans notre pays, ce n'est pas une guerre uniquement des ressortissants de ces pays, mais il y a des actifs pour leurs intérêts. Tout à l'heure, on a parlé des problèmes des minéraux. Il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux. Tous ces acteurs viennent ici pour leurs intérêts. Moi, je crois que le Congolais doit prendre conscience de son pays, de ce qu'il veut. Et l'extérieur pourra nous aider pour nous accompagner à mettre fin.
Professeur?
Oui.
Professeur, je ne sais pas si vous avez réagi, répondu à ma question. Vous savez, toutes les réticences de certains députés nationaux originaires de l'Est, la réticence qui a entouré la désignation d'Adolphe Mouzito, maintenant qui se rend à l'Est du pays, justement pour gérer cette crise. Quelles sont les chances que vous donnez à son gouvernement? En une minute, parce que nous devons passer à la seconde partie.
Mais les chances qu'on peut donner à son gouvernement, c'est un gouvernement qui mène des actions, mais il faut donner des moyens à ce gouvernement.
Qui doit donner moyens
pour que le gouvernement réussisse à cette mission? Premièrement, des moyens financiers. Deuxièmement, des moyens militaires. Troisièmement, des moyens diplomatiques. Si on n'a pas ça, on ne peut pas réussir. Il faut que le gouvernement ait ses propres moyens pour se présenter devant les autres, même s'il y a une négociation, et que le gouvernement se présente à une situation de force.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement a ses moyens dont vous parlez?
Mais j'ai dit pour le moment, le gouvernement n'a pas de moyens.
Merci.
Pour lui donner ces moyens-là.
Qui doit les lui donner?
Mais qui doit lui donner? Ce sont des institutions. C'est par exemple le Parlement qui doit voter le budget.
Merci.
En donnant les moyens au gouvernement pour exécuter tout ce qu'on lui demande de faire.
Merci beaucoup. Quelles sont les causes profondes de la crise à l'Est et quelles solutions pour une paix durable dans cette partie du pays? C'est le deuxième point que nous abordons dans la seconde partie de cette émission. Mais avant d'en parler en détail, je vous prie de suivre d'abord le rappel de nos contacts et nous nous retrouvons tout de suite après.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
L'exploitation illicite des ressources minières que regorge l'Est de la RDC est l'une des causes de la guerre dans cette partie du pays. Selon un communiqué de presse rendu public le samedi 1er novembre dernier, l'ONG britannique Global Witness demande que les efforts internationaux soient consacrés au rôle du commerce de ressources naturelles dans les différents conflits armés qui sévissent à l'Est de la RDC. Pour nous en parler, notre confrère Pierrot Elamegi a scruté ce rapport pour nous.
Dans ce rapport, Patrick Alley, directeur des Global Witness, salue les différentes réactions de la communauté internationale sur les récents événements dans la province du Nord Kivu. Mais, poursuit-il, les initiatives diplomatiques à courte échéance n'engendreront pas une paix durable si l'on ne s'attaque pas aux causes sous-jacentes du conflit. Il cite les avantages économiques liés à la guerre, à savoir que le Nord et le Sud Kivu sont riches en minerais, notamment la cassiterite, l'or et le coltan. Selon l'ONG britannique Global Witness, le commerce de ces minéraux sous-tend la guerre dans cette région depuis 1998. La quasi-totalité des principaux groupes armés impliqués dans les conflits et des soldats de l'armée congolaise nationale s'adonnent depuis des années au trafic de ces minéraux et c'est de manière illégale et dans l'impunité totale. Cette ONG avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur ses commerces illicites en juillet et août de cette année. Par ailleurs, Global Witness s'inquiète de l'indifférence des acheteurs et des compagnies impliquées dans le commerce des minéraux en provenance de l'est de la RDC à mettre un terme au lien entre le commerce des minéraux et la violence persistante. Notons aussi que depuis 2001, plusieurs rapports sur l'exploitation illégale des ressources naturelles ont été déposés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des enquêtes menées par des experts dénoncent le commerce illégal des différentes ressources dans les zones sous contrôle, soit des groupes rebelles et leurs parrains, soit des troupes gouvernementales et les anciens alliés de guerre. Dans ces rapports, des personnalités ainsi que des compagnies congolaises et étrangères ont été citées. C'est pourquoi l'ONG Global Witness suggère au secrétaire général des Nations Unies d'élaborer un rapport sur les liens, ressources naturelles et conflits, démarche qui constituerait une première étape vers l'instauration d'une stratégie internationale plus énergique.
Karina Terfakian, vous êtes justement de l'ONG Global Witness qui a écrit ce rapport. Vous pensez que, vous estimez dans ce rapport que dans les négociations pour mettre fin à la crise à l'est du pays, il faudrait tenir compte à tout prix de la donne exploitation des ressources minières comme cause des conflits armés à l'est du pays. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Oui, en fait, comme nous le savons, il y a plusieurs différents facteurs derrière ce conflit. Il y a les facteurs politiques, il y a les facteurs ethniques, mais il y a aussi les aspects économiques. Et malheureusement, jusqu'à présent, cet aspect-là n'a pas vraiment fait l'objet de discussions sérieuses dans le cadre des pourparlers, des négociations de paix. En fait, comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, il y a eu déjà de nombreux rapports publiés sur cette question, que ce soit par les Nations Unies, que ce soit par des ONG Global Witness ou d'autres. Donc, tout le monde sait très bien que les différentes parties au conflit sont en train d'exploiter illégalement ces ressources naturelles, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait d'une manière concrète pour arrêter cela. Donc, le résultat, c'est que ces différents groupes continuent de s'enrichir aux dépens de la population. Donc, tout le monde en profite, sauf la population civile congolaise.
Karina, s'il vous plaît, dans le cas concret de ce qui se passe actuellement au Nord Kivu entre les troupes de l'armée nationale et le CNDP, est-ce que vous pensez que l'exploitation des ressources minières telles que la cassiterite, l'or, le coltan, est à l'origine de cette tension entre le gouvernement et le CNDP?
Je pense que c'est l'un des aspects qu'il faut étudier dans le cadre plus large, le contexte plus large de ce conflit. Je ne pourrais pas dire que c'est cela précisément qui motive les combats ces derniers jours, mais quand on voit les intérêts des différents groupes, par exemple, pourquoi est-ce qu'un groupe tel que le CNDP ou d'ailleurs les FDLR ou autres essaye de s'emparer de certains territoires dans l'est du Congo? Ce n'est pas uniquement pour des raisons politiques. Il y a un intérêt économique important, puisque avec la conquête de certains territoires, ils arrivent aussi à assumer contrôle des carrières minières, que ce soit la cassiterite, l'or et autres. Et je voudrais aussi souligner qu'il ne s'agit pas uniquement des groupes armés. Nous-mêmes, nous avons enquêté sur le rôle des militaires des FARDC dans l'exploitation illicite des minerais, et nous avons découvert que certaines unités des FARDC et même des commandants assez haut placés au niveau des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont impliqués là-dedans aussi. Donc même si cet aspect-là n'est pas actuellement ce qui pousse ces différents groupes à combattre, c'est sûr que cela figure dans leurs objectifs à long terme.
Merci. François Grignon, d'après vous, quelles sont les causes profondes qui expliquent la situation tendue au Nord Kivu, au Sud Kivu et pourquoi pas dans tout l'Est de la République démocratique du Congo, en partant d'abord par le Nord Kivu, par exemple?
Oui, écoutez, je pense qu'il faut, c'est difficile de généraliser, la situation du Nord Kivu a ses spécificités. Il y a des questions sécuritaires, avec le désarmement de différents groupes armés, mais aussi nationaux, mais aussi des groupes armés étrangers. Il ne faut pas oublier la présence des FDLR qui ont littéralement mis sous coupe réglée une partie du territoire, notamment à Walikale, et qui ont soumis la population congolaise à l'esclavage dans cette zone. Il y a donc des questions sécuritaires, il y a aussi bien sûr des questions économiques. Et là-dessus, je crois que le point qu'il est important de souligner, c'est que tout le monde est coupable. C'est que vous avez des pilleurs qui viennent de Kinshasa, qui sont des FARDC, qui s'associent avec les FDLR, autant que des pilleurs qui soutiennent le CNDP de Laurent Kunda, d'autres milices, et qui se mettent en association avec des hommes d'affaires du pays voisin, du Rwanda. Et donc, le problème au Nord Kivu sur la question économique, c'est de faire en sorte d'organiser des activités économiques sans être à la merci des pilleurs, parce que la situation que vous avez aujourd'hui actuellement, elle est, si vous voulez, une situation où personne ne veut arrêter le pillage. Et vous avez le remplacement du pillage des anciens du RCD par le pillage maintenant de ceux qui sont alliés à l'ANP. Ça touche bien sûr les activités minières, mais qui aujourd'hui paye les impôts pour l'import-export au Nord Kivu? Est-ce que les commerçants nandais ont cessé le système de préfinancement qu'ils avaient mis au service des différents mouvements rebelles pendant la guerre? Est-ce que d'autres commerçants qui sont impliqués dans différentes activités d'importation d'essence, par exemple, au Nord Kivu, payent effectivement les droits de douane qu'ils sont censés payer? Le pillage de l'économie du Nord Kivu alimente tous les acteurs politiques, et le grand défi de du gouvernement et du Premier ministre est de réussir à réguler les activités économiques en dehors ou de façon différente et de libérer l'économie du Nord Kivu de la politique du pillage.
François Grignon, s'il vous plaît, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que les affrontements entre le CNDP et l'armée nationale puissent perdurer, tous ces enjeux économiques?
Écoutez, les affrontements, je ne sais pas, puisqu'en fait vous avez des poussées de fièvre régulières qui sont liées à des ambitions de l'armée nationale de vouloir conquérir militairement la situation, mais qui en fait n'en a absolument pas la capacité, avec un CNDP qui contrôle un territoire qui réussit à grandir ou bien en fonction des pressions qu'il subit, qui se rétrécit, mais qui refuse catégoriquement le désarmement. Et sur cette question, il n'y aura pas de solution militaire, je ne pense pas.
Et pourquoi le CNDP...
Il va y avoir une solution...
Et pourquoi, d'après vous, le CNDP refuse le désarmement ou le désengagement?
Monsieur Kunda est très content, il veut le statu quo. Il contrôle une partie du territoire congolais, il agite les spectres du génocide rwandais pour justifier ce statu quo. Il est financé par des hommes d'affaires qui veulent continuer à bénéficier de ce statu quo, de l'économie de guerre. Et en fait, pour lui, si vous voulez, l'intégration dans l'armée nationale n'offre véritablement aucun intérêt. Donc il est prisonnier, il est, je dirais, l'expression d'intérêts particuliers privés qui ne veulent pas un changement, qui réussit sous la rébellion du RCD à, je dirais, obtenir des avantages et des privilèges et à s'enrichir considérablement, et ils veulent le maintien du statu quo. Et pour obtenir ce statu quo, ils ont à leur service une capacité de nuisance militaire indéniable. Ils ont une capacité aussi d'entretien de l'économie de guerre qui continue. Et puis ils ont aussi une forte capacité, je dirais, de manipulation médiatique et d'agitation sur le thème de la sécurité qui continue aujourd'hui au Nord Kivu. Mais fondamentalement, je ne pense pas que Laurent Nkunda ait quoi que ce soit à négocier. La seule chose qu'il peut espérer, c'est le maintien de ce statu quo, de ce contrôle sur deux territoires, où il se comporte comme un petit chef de guerre, met en coupe réglée les populations,
et refusent l'intégration dans l'armée ou refusent l'instauration de l'autorité de l'État.
Nous avons également dans cette émission le professeur Labana Lafay. Professeur, est-ce que vous y voyez aussi d'autres causes, aussi bien sociales que politiques, non seulement économiques, pouvant expliquer cette guerre à l'est du pays, notamment au Nord Kivu?
Ok, je crois que la première cause, c'est celle qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est une cause économique. Beaucoup des acteurs sont impliqués pour les intérêts économiques, que ce soit au niveau africain, au niveau international, au niveau de notre pays, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-bas. Si nous voulons chercher pourquoi cette guerre, cette déstabilisation de la région du Nord qui veut continuer, je crois que la première cause que nous devons soulever ici, c'est l'échec du processus de DDR. Si ce processus avait réussi...
C'est-à-dire, ça signifie quoi pour nos auditeurs?
C'est-à-dire que désarmement, démobilisation, réinsertion, si ça avait réussi comme il faut, comme c'était annoncé, je crois que on serait très loin dans le processus de la recherche d'une paix durable dans cette partie de notre pays.
Donc ce processus qui concerne en principe les milices et groupes d'armées?
Bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelait le mixage. Si ça avait réussi, c'est l'échec de tout cela qui nous amène ces chapelets de malheur au Nord Kivu. Et il y a aussi, disons, les problèmes politiques. Les problèmes politiques, vous avez évoqué tout à l'heure. Si vous regardez la configuration de notre gouvernement, vous allez trouver trois quarts, ce sont des chefs de parti. Au lieu de faire appel aux d'autres technocrates, et ces chefs de parti peuvent rester comme des conseillers. Mais vous retrouverez le même. Et c'est comme ça qu'on a fait le chantage au Premier ministre lors de sa nomination. Moi, je crois que nous, les Congolais, nous devons savoir ce que nous cherchons. Si nous cherchons la paix, cherchons les causes, attaquer ces causes-là pour qu'on rétablisse la paix à l'est du pays. Mais si nous ne nous retrouvons pas et que nous servons les intérêts des acteurs invisibles pour exploiter illégalement notre pays, je vous dis sincèrement, nous pouvons avoir 100 rapports, ces rapports ne vont pas améliorer la situation dans notre pays. Étant donné que les acteurs premiers qui vont piller ce pays viennent de l'extérieur, mais en complicité avec certains Congolais qui sont ici dans notre pays. Merci. Je crois que nous devons prendre conscience de cette situation. Nous devons savoir où se trouvent nos intérêts. Vous savez, tous les jours nous sommes en guerre. Donc on peut nous amener à un autre gouvernement qui serait incapable de résoudre ce problème de
l'État.
Si longtemps que les Congolais n'ont pas compris le sens de l'intérêt de ce pays.
Merci beaucoup, professeur. Karina Terzakian, vous êtes chargée du programme RDC à l'ONG Global Witness, une ONG non gouvernementale britannique. Est-ce que vous y voyez une certaine volonté de résoudre cette question de l'économie de guerre, ou vous y voyez plutôt un gel de cette situation pour que la guerre puisse perdurer et que cette économie de guerre profite aux différents belligérants?
Oui, je pense que malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu vraiment une volonté politique ferme traiter ce problème-là. Donc, je dirais que plutôt en ce moment, on voit une situation qui perdure déjà depuis longtemps. Tout le monde profite de ce statu quo, donc cette situation chaotique qui existe à l'est du Congo profite à tout le monde. Il y a une impunité totale, il n'y a aucun cas à notre connaissance de personnes ou même d'entreprises qui ont été traduites en justice pour des crimes par rapport à l'exploitation illicite des ressources ou au pillage.
Mais Karina,
donc, tout le monde continue sans être inquiété.
Karina,
c'est d'ailleurs ça le problème principal, que tout le monde est au courant de cette situation, mais personne vraiment n'impose des mesures concrètes pour arrêter cela.
Karina,
nous avons déjà parlé, oui,
Mais vous n'y voyez pas aussi des causes politiques, parce que vous voyez plus des causes à caractère économique pouvant expliquer cette guerre. Il n'y a pas aussi des causes politiques, des conflits peut-être ethniques ou une question des repositionnements sur le plan politique.
Oui, absolument. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, l'aspect économique n'est pas le seul. Il y a bien sûr les aspects politiques et ethniques. Mais d'ailleurs, je crois que souvent les aspects politiques et économiques se chevauchent. Et on constate cela même au niveau international. Par exemple, quand nous voyons un peu les réactions de certains gouvernements occidentaux. Ils hésitent peut-être à affronter de manière claire les intérêts économiques de certains, peut-être de crainte d'endommager les relations diplomatiques ou politiques. Par exemple, certains gouvernements occidentaux qui entretiennent d'assez bonnes relations avec le gouvernement de président Kabila ou même avec le gouvernement de président Kagame au Rwanda. Donc, c'est peut-être pour cela aussi que les intérêts économiques, on n'en discute pas de manière franche à cause de la politique, justement.
Merci beaucoup, Karina. Bonsoir, Titi Mputu.
Bonsoir.
Est-ce que la crise à l'est du pays a encore intéressé nos auditeurs et que disent-ils?
D'ici en province orientale, John Monganga pense que cette visite ne sera pas différente de celle effectuée par le président de la République. Le dernier recours, à son avis, est la négociation, avis que partage aussi Fidèle depuis Goma, en Nord Kivu. Jules Bukessa, depuis Luputa au Kasaï oriental, estime que la richesse du sol et sous-sol congolais, ainsi que le contrat chinois, sont les causes profondes de cette crise. Octave Taoya, depuis Goma au Nord Kivu, pense que la présence du Premier ministre n'a pas d'impact pour instaurer la paix à l'Est. Seules les stratégies de guerre adaptées à la réalité du milieu donneront des bons résultats. Un auditeur anonyme pense que pour retrouver la paix à l'Est, il faut commencer par ignorer Kunda. Restructurer l'armée, envoyer les militaires en formation comme du temps de Mobutu, dans des académies militaires et installer des bases militaires le long des frontières. Pierrot, depuis Goma au Nord Kivu, pense que l'arrivée du Premier ministre à Goma est une consolation. Mais cela ne suffit pas, car les Gomatraciens attendent de ces derniers des actions concrètes et palpables, et non un simple tourisme. Enfin, un autre auditeur anonyme pense que la haine ethnique et le manque d'une bonne gestion des crises sociales sont à la base des conflits au Kivu. D'où il faut une bonne campagne de sensibilisation, car nos politiciens, dit-il, ont ancré dans la mentalité du peuple la haine contre des populations d'expression rwandophone.
Merci beaucoup, Titi Mputu, et merci également à nos auditeurs. François Grignon, vous êtes directeur du programme Afrique de l'ONG de prévention et résolution des conflits, International Crisis Group. Qu'est-ce que vous dites de la résolution de cette crise? Qu'est-ce que vous répondez à John Monganga qui dit que le dernier recours est la négociation?
Oui, je suis en partie d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y aura pas de solution militaire. Maintenant, la négociation, tout n'est pas négociable. Laurent Kunda ne peut pas dicter qui vont être ses interlocuteurs du gouvernement. L'objectif, comme je l'ai mentionné, le seul objectif légitime d'une telle négociation, c'est la réalisation du désarmement complet de l'ensemble des groupes armés du Nord Kivu. Ça veut dire du CNDP notamment, mais aussi des autres groupes armés. Donc la négociation, oui, mais en sachant très bien où on veut aller, et je dirais le seul objectif qui doit pouvoir être affirmé, c'est la restauration de l'autorité de l'État et des institutions légitimes qui ont été élues. Maintenant, ce qui peut être négocié, c'est comment ça va se faire, à quel rythme, dans quelles conditions. Et c'est vrai que là-dessus, malheureusement, les différents processus préalables qui ont été menés n'ont pas été convaincants, parce qu'ils n'ont pas reçu le soutien, il faut bien dire, le soutien suffisant de Kinshasa. Et là-dessus, des problèmes de corruption, d'implication dans les activités économiques, de mauvaise gestion de l'armée congolaise, porte un coup terrible à la crédibilité de tout processus d'intégration.
Et qu'est-ce qu'il faut faire
des armées, que ce soit au Nord Kivu ou au Sud Kivu?
Qu'est-ce qu'ils pensent?
Et la deuxième chose, bien sûr, c'est aussi la question de la collaboration entre certains éléments des FRDC et FDLR. Il faut que ça cesse. Il n'y a pas d'autre alternative à une cessation totale de cette collaboration pour retirer justement à Nkunda toute excuse, toute justification de continuation de son insurrection.
Voilà, on n'a plus beaucoup de temps, donc professeur Labane Lassin, je vais d'abord lire une dépêche qui venait de nous parvenir avant cette émission. Luis Moreno Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale, a exprimé son inquiétude sur la situation dans les Kivus et a rappelé aujourd'hui que son bureau suivait de très près les informations convergentes sur des attaques menées contre la population civile, le déplacement forcé des populations, les meurtres, les viols et les pillages perpétrés lors des affrontements armées récents dans la province du Nord Kivu. Il appelle les organisations internationales et même le gouvernement congolais à l'aider, notamment à mettre à exécution l'arrêt sur délivrer à l'encontre de Bosco Ntsangana, qui est, d'après ce communiqué de la CPI, impliqué dans les combats actuels au Nord Kivu. Vous pensez que cette menace de la CPI peut aider à mettre fin à cette guerre au Nord Kivu?
Ce n'est pas normal, hein. D'ailleurs, notre pays collabore avec la CPI. Je crois que c'est une bonne chose si on peut identifier les acteurs de tous ces troubles-là, on peut les envoyer là-bas. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Et le pays est en train de subir beaucoup de pressions de la part de la communauté internationale et je crois que ces pressions peuvent aussi jouer pour amener les protagonistes à trouver la solution pour que la paix revienne dans cette partie.
Mais quelle solution vous y voyez? Parce que concrètement, le gouvernement n'a pas les moyens, aussi bien militaires peut-être que politiques, pour faire arrêter Bosco Ntsangana qui dirige actuellement l'armée de Laurent Nkunda.
Oui, mais moi je crois que à ce niveau-là, il y a une collaboration entre les Nations Unies et l'armée congolaise, n'est-ce pas? On peut utiliser ces forces qui sont sur le terrain de mettre la main sur lui. Je crois qu'on peut le faire. Même si l'armée congolaise n'a pas de moyens pour le faire arrêter, moi je crois que la collaboration avec les Nations Unies, nous pouvons arriver à mettre fin à cela. Mais tout à l'heure, là, vous avez parlé, je m'excuse, de la négociation. Je crois que la négociation, nous devons envisager à deux niveaux. Le premier niveau, nous voyons la négociation entre l'État congolais et les acteurs invisibles qui soutiennent Nkunda.
C'est qui ces acteurs invisibles?
Mais les acteurs invisibles sont connus. Nous lisons dans la presse, on vous dit le Rwanda, on vous dit l'Ouganda, etc.
En 30 secondes, s'il vous plaît.
Pardon?
En 30 secondes, s'il vous plaît.
Oui, en 30 secondes, c'est-à-dire que nous pouvons entamer la négociation avec ces pays-là pour que ces pays-là cessent leur appui à Nkunda. Deuxièmement, quand on parle de la négociation, mais sur le processus interne, nous avons dit, il y a eu beaucoup d'étapes de ce processus de la négociation. Je crois que le point de départ, il faut la cohésion nationale et que nous revenons à défendre nos intérêts. Que le processus qu'on a mis en place, qu'on mette confiance à la réussite de ce processus.
Merci.
Je crois qu'on peut arriver à résoudre cette question de qui.
Merci. Karina Terzakian, quelle solution préconisez-vous pour finalement mettre fin à cette guerre qui sévit à l'est du pays, et plus précisément aujourd'hui au Nord Kivu?
Je pense que vous avez touché le point principal là, lorsque vous avez parlé de la justice, hein, ou plutôt de l'absence de la justice. Je pense que bon, on peut poursuivre les négociations, cela est essentiel, mais il y a certains types de comportements et de crimes envers la population qu'on ne peut pas tolérer, et il est indispensable que la justice soit restaurée, que ce soit au niveau du système judiciaire congolais ou bien au niveau international, par exemple par la CPI. Et il y a certains criminels de guerre dans tous les groupes différents qui devraient être arrêtés et traduits en justice. Et je pense que ça représente vraiment la solution à long terme. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Et bien sûr, c'est un travail difficile,
merci.
Mais il faut un point de départ.
Merci.
Il faut traduire ces personnes en justice plutôt que de leur donner des beaux postes dans l'armée ou des rangs importants.
C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à l'équipe qui était derrière la baie vitrée. Au revoir et à demain.